Nous avons maintenant la chance d'avoir au téléphone un des plus grands journalistes français, un grand écrivain bien sûr, mais là nous parlons surtout du journaliste, un grand homme de radio aussi. Et c'est un honneur pour moi que de l'avoir à l'antenne, c'est monsieur Philippe Labreau. Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir mon cher Yann, et arrêtons les compliments.
Écoutez, on rend hommage quand même aux hommes de radio, puisque je suis là sur Europe 1, et donc vous ne pouvez pas me dire, vous qui avez dirigé RTL pendant des années, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est un petit bonhomme de la FM, vous êtes un grand homme de radio.
Ah ben, je connais un peu ce métier, en effet, je considérerai toujours que c'est un métier, c'est un média, pardon, plutôt très très proche des gens, très important, très chaleureux, qui aide beaucoup, c'est l'assistance permanente, c'est une voix dans la nuit, c'est la vôtre d'ailleurs en ce moment, et c'est très réconfortant. J'ai toujours considéré que la radio accompagnait les Français, voilà.
Et justement, Philippe,
la compagnie des Français.
Vous qui avez incarné RTL pendant des années, qu'est-ce que pour vous représente Europe 1? L'Europe 1 historique, le Europe 1 mythique, c'était quoi Europe 1 à l'époque?
Mais comme vous le savez peut-être, j'ai débuté Europe 1.
Je sais.
J'ai débuté fin 50, début 60. Bah, c'était extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'est que c'est eux qui ont changé le langage. Le langage
c'est-à-dire,
radio jusque-là.
C'est-à-dire.
Jusque-là, la radio, c'était demain matin, le président de la République viendra. Voilà, c'était quelque chose de formel, de comment dirais-je, ostentatoire, institutionnel, alors que Siegel, Gorigny et toute cette équipe, qui sont des légendes de la radio, ont installé un langage normal, comme en ce moment on est en train de parler là. Exactement ça, ils ont donné à l'information la qualité du quotidien.
Et c'était révolutionnaire ça.
Ah ben à l'époque oui, mais non seulement. Par ailleurs, ce qui était révolutionnaire, c'est qu'ils avaient une très belle équipe de reporters, d'éditorialistes, et qu'ils avaient une radio totalement libre face aux radios du service public, qui étaient beaucoup plus conformistes et, disons, très, très surveillées par l'État. Donc Europe 1, c'était la radio libre par excellence, d'ailleurs qui est devenue assez rapidement en compétition avec RTL, quand RTL a fait elle-même sa révolution avec Jean Farran. Et on a eu affaire, au début des années 60, à une éclosion extraordinaire de ces deux radios privées, Europe et RTL, qui se concurrençaient, qui s'imitaient l'une l'autre. Mais au départ, c'est Europe 1, on appelait ça Europe numéro 1.
Exact.
Vous êtes sur Europe numéro 1.
Et vous, quels sont vos souvenirs de journaliste débutant à Europe 1? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils m'ont appris, et j'ai appris, le direct. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir, comme je fais en ce moment avec vous, et que vous savez le faire vous aussi Yann, parler en direct avec des virgules et des points. C'est qu'on sente que c'est écrit alors qu'il n'y avait rien d'écrit. Et par exemple aussi, ils m'ont donné la possibilité non seulement de faire des reportages dans la rue, au commissariat de police, dans les aéroports, à l'arrivée de Khrouchtchev ou de Gaulle, mais aussi la capacité de comprendre grâce au match de foot. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un type qui s'appelait Fernand Choisel, qui était un des grands patrons du sport à l'époque, avec, je crois, Jacques Forestier, qui était lui-même le patron des sports. Vous voyez, en vous parlant, tout ça me revient. Eh bien, ces deux gens-là m'ont donné la possibilité de commenter un match de foot. Moi, j'ai tout fait en l'espace d'un an et demi, parce que je les ai quittés pour aller faire de la presse écrite. Après, je suis revenu, enfin bref, on ne va pas parler mon itinéraire professionnel, mais je sais que là, en l'espace d'un an, un an et demi, ils m'ont tout appris. J'ai pu tout faire, aussi bien l'interview d'une star, que le compte-rendu d'une soirée à l'Olympia, que un fait divers quelque part en banlieue, que, effectivement, les voyages présidentiels, j'ai suivi De Gaulle en province, il m'a même serré la main. J'étais avec un copain qui s'appelait Jacques Chapuis, qui lui-même travaillait
bien sûr, bien
à François, que j'ai retrouvé à François à l'époque. On était tous les deux en randonnion. Il nous serrait la main en disant « Salut les anciens !» alors que j'avais à peine 20 ans.
Quel est, d'après vous, le rôle de la radio dans les années 2020, aujourd'hui?
Ça continue d'être ce que ça a toujours été, ça n'a pas changé. C'est la radio d'accompagnement, c'est la proximité, c'est le média que j'écoute, moi, le matin. je ne me mets pas sur une chaîne télé le matin, vous voyez, et je n'ai pas encore la presse écrite entre mes mains. Donc c'est la première façon et première faculté d'obtenir ce que j'appelle l'air du temps. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Vous avez dirigé RTL, quel était votre souci premier, votre obsession?
C'était de ne jamais diffuser une information fausse et non vérifiée et non avérée. J'avais été, quelque temps auparavant, éduqué dans une université américaine par le journalisme à l'américaine de l'époque, selon quoi check and double check. On vérifie, on revérifie. Donc croiser les vérifications. Quitte à être en retard, je préférais une radio, une info exacte qu'un scoop bidon, vous voyez.
Et pour créer une ambiance radio, comment est-ce qu'on fait pour qu'une station soit cohérente, pour que les auditeurs aient l'impression d'une sorte de fluidité du matin au soir? Comment est-ce qu'on crée ça?
Par les voix, par le sourire dans la voix, par la chaleur dans la voix, par le fait que ce n'est pas Europe 1 qui l'a inventé, mais c'est Farran qui l'a inventé, la fameuse expression quand il disait « RTL, c'est vous ». Eh bien, il faut dire « Europe 1, c'est vous ». C'est-à-dire, vous vous adressez, ce n'est pas des médias qui parlent aux médias, on sort du village du 8e arrondissement et on s'adresse à tout le monde. Il faut savoir que tout le monde nous écoute, de droite, de gauche, du centre, blanc, beurre, jaune, ce qu'on veut, c'est le grand public. Pensez toujours à ce qu'on s'adresse, à ce que on appelait le grand public. Et le grand public, c'est tout le monde. Et la radio, c'est le métro à 18h. C'est tout le monde.
Écoutez, merci Philippe Labro. J'ai une question à vous poser. J'aimerais vous faire un cadeau en ce début d'année 2023, car nous sommes le 1er janvier. Est-ce qu'il y a un morceau de musique que vous souhaiteriez faire partager à nos auditrices, à nos auditeurs, et qui vous est particulièrement cher? Et on va le passer.
J'en ai tellement, mon cher.
Je sais.
Tellement.
Je sais.
Mais il faut du classique ou du pop ou quoi?
Oh, plutôt de la pop, rock, country.
Alors en pop, je vais vous dire une chose.
Oui.
Il y a une chanson de Bob Dylan qui m'a toujours obsédé, que j'adore,
oui,
parce qu'elle est sans parole. Ça s'appelle Wigwam.
Wigwam.
Et ça commence par la 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 la. Et il fait ça pendant 3 minutes. Et c'est merveilleux, parce que c'est entraînant. Et moi, quand j'entends ça, je me retrouve sur la route à 18 ans quand je faisais du stop dans l'Ouest américain. Si vous la récupérez, vous la récupérerez par vos archives, c'est trop long, mais passez-en une bonne minute, c'est extraordinaire.
Nous allons.
Et c'est la joie, c'est euphorique, c'est entraînant.
Nous avons
besoin d'euphorie pour 2023.
Eh bien, nous allons écouter Wigwam, Bob Dylan. Nous souhaitons à Philippe Labro une excellente année. Merci, mon cher Philippe. Vous savez à quel point vous êtes cher à mon cœur. Je vous embrasse très fort et à très vite, Philippe.
Mais moi aussi, je vous embrasse beaucoup, Yann, et votre émission est excellente. Je vous écoute très régulièrement.
Merci, Philippe. Bonne année à vous.
Salut.
Au revoir.
Salut. Bonne année.